France Inter.
L'écrivain Sarah Chiche a, excusez du peu, préfacé Zweig, Freud et Balzac. Elle est l'auteur des essais « Personne », d'après le livre de l'intranquillité de Pessoa, « Éthique du Mikado » consacré à l'œuvre d'Haneke et une histoire érotique de la psychanalyse, de la nourrice de Freud aux amants d'aujourd'hui. Chacun de ses romans porte un titre élégant. « L'inachevé »,« L'emprise »,« Les enténébrés »,« Saturne »,« Les alchimies » et celui qui vient de paraître chez Julliard, « Aimé ». L'histoire débute par la tentative de noyade d'une petite fille de 9 ans dans le lac Léman. Nous sommes en 1984 et la jeune Margot Gennaro, qui a de sérieuses raisons de chercher à faire cesser son existence, marque à jamais, par cet événement, celle de son camarade de classe, Alexis Keller, dont le père la sauve. Les deux jeunes êtres, déçus par leurs parents pour différents motifs, commencent à s'aimer chastement, mais Margot quitte la Suisse du jour au lendemain sur décision de sa mère. On va alors suivre ces deux personnages à travers plusieurs décennies, leurs flirts, leurs histoires d'amour, leurs névroses, leurs ruptures, leurs changements de carrière, leurs affranchissements, leurs désillusions ou leurs illuminations. N'ayant pas eu à ma disposition de lacrymatoire pendant la lecture de ce beau roman, j'ai auto-hypnotisé mes yeux pour qu'ils restent secs. Un détail que j'énonce uniquement, chers auditeurs, pour avoir le plaisir, pour ceux qui ne le sauraient pas, d'expliquer ce qu'est un lacrymatoire. C'est une petite fiole funéraire romaine destinée à recevoir les larmes des endeuillés. Bon, alors, on a depuis découvert qu'elle n'était pas destinée à ça, mais l'idée est trop belle pour qu'on s'encombre d'une vérité prosaïque. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Sarah Chiche.
Bonsoir Eva Bester.
Vous saviez ce que c'était qu'un lacrymatoire, ça se voyait?
Oui.
Ça ne m'étonne pas de vous. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Oh, il est vrai qu'il y a peu d'occasions de s'enthousiasmer par les temps qui courent. Pour autant, ce fut une randonnée dans le massif du Beaufortin, dans un endroit qui s'appelle les Lacs de la Tempête. C'est un chapelet de 4 lacs et d'une pureté extrême. Et j'ai découvert à cette occasion à quel point l'ascension progressive, scrupuleuse, peut nous purifier des vanités humaines, de sorte que quand on arrive enfin au sommet, on se dit « mais mon Dieu, mais en dépit de tout, qu'est-ce que la vie est belle ?»
Pas de souffrance physique dans les randonnées?
Ah si, mais ça fait partie du plaisir.
Non, dirais-je. Des tendinites?
Non. Non, non. En revanche, je suis extrêmement sensible à l'altitude, si bien que quand au-delà de 2000 mètres d'altitude, mon cerveau se câble différemment et je ressens une euphorie joyeuse qui ne m'est pas du tout coutumière sur le plancher des vaches. C'est pas désagréable.
Vous avez, dans votre roman « L'emprise », raconté l'assujettissement total d'une patiente à un thérapeute pervers. Est-ce que finalement, toutes les relations humaines ne sont pas souvent des relations de pouvoir ou d'assujettissement ?
Ah, j'aimerais dire que non. Hélas, l'actualité nous montre souvent que bien des relations sont entachées de ces rapports de pouvoir et de domination. Pour autant, il est aussi des espaces qui sont purs de cela. L'amour, par exemple, l'amour véritable, le rapport à la musique aussi, je crois, des choses comme ça.
On va parler d'amour ce soir et de musique aussi. En fait, dans la vie, le fantasme de la plupart des gens, c'est de ne prendre aucun risque. Mais finalement, vous le rappelez souvent, Sarah Chiche, ça n'existe pas. En fait, aucun risque, c'est quand on est mort.
C'est ce que je crois, oui. Aimer est un risque. C'est peut-être le plus beau des risques. Et c'est ce que je voulais raconter dans ce roman à travers les destins de ces deux êtres et des personnages qui les accompagnent. Et je crois qu'au fond, l'amour peut-être commence ainsi, à cet instant, quand tout ce que l'on risque soi-même se produit pour un autre, pour l'autre qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare, mais quand on le rencontre dans une vie, c'est une grâce.
Est-ce que vous prenez facilement des risques ?
Je suis quelqu'un de très rigoureux et raisonnable, avec, dans mon quotidien, Mais oui, il m'arrive de prendre des risques personnels. Oui, il y a mais c'est quelque chose qui existe depuis l'enfance. Quand j'étais petite, je voulais être un chevalier. Et ça ne m'a pas quitté, cette idée-là. Je me racontais ces petites choses dans les paysages d'enfance que j'arpentais. Et je crois que, voilà, les chevaliers prennent des risques.
Qui vouliez-vous défendre ?
Ma mère. Encore et toujours.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Sarah Chiche, vous vous êtes intéressée au livre de l'intranquillité de Pessoa. Vos premiers romans s'intitulent L'inachevé, L'emprise, Les enténébrés, Saturne. Je fais exprès de m'arrêter là. Où en êtes-vous de votre mélancolie?
Oh, je crois que quand elle est là, elle ne cesse jamais. Pour autant, j'admets qu'il s'est produit un changement après l'écriture de Saturne que je qualifierais d'heureux, c'est-à-dire une préférence pour la joie et pour la gaieté comme élégance morale. Mais je crois que c'est parce que j'ai vieilli, en fait.
Pas parce que vous vous êtes plongée justement dans la planète de la mélancolie ?
Oh, je suis allée, notamment avec les livres que vous venez de citer, jusqu'au fond du fond. Et je me suis dit, bon, ben, Gindre, ça va bien comme ça. Hein, ça suffit maintenant, autant écrire tout à fait autre chose et montrer que tu peux écrire tout à fait autre chose.
Est-ce que les alchimies correspondent justement à une transmutation vers un peu de lumière et vers l'amour pour le roman aimé ?
Tout à fait. C'est une. Vous avez fort bien lu dans les alchimies, à travers l'histoire de cette médecin légiste et de sa quête obsessionnelle autour de la disparition du crâne de Goya et du destin de ses parents et de son parrain. Il s'agissait bien d'opérer une transmutation dans l'écriture aussi, transmutation des personnages et notamment de cette fille Camille Cambon, mais aussi transmutation de l'écriture, et c'est ce qui in fine a abouti à aimer.
On ressent à mesure qu'on vous lit dans chacun de vos romans de plus en plus d'humour, d'ironie. Est-ce que vous vous en rendez compte ou est-ce que c'est une impression de ma part ?
On me le dit. Mais en fait, mes amis disent que je suis une marrante, mais je crois que au fond. Toute petite, j'envisageais l'écriture comme une chose tellement sérieuse, tellement, tellement grave que sans doute certains de mes précédents livres étaient-ils empesés de cette gravitas. C'est un jeu sérieux. Mais là, j'ai souhaité désencombrer mon écriture d'un certain lyrisme, d'un certain dolorisme. Franchement, je ne voulais pas de ça du tout pour ce livre.
Ce qui vous touche au plus profond, c'est donc l'enfance. Et l'enfance peut vous poursuivre dans cet âge adulte.
Ah oui, absolument. J'ai essayé de l'expliquer à propos de deux ou trois photographies en lisant l'air que j'avais, l'air que j'avais quand j'étais enfant, je retrouve des états intérieurs, des émois, une émotivité qui était celle que j'avais déjà quand j'étais enfant. En ce sens-là, on ne mûrit jamais, si vous voulez. Le corps, précisément, ne mûrit pas. Et nous savons bien, alors d'ailleurs, par la psychanalyse elle-même, combien les émois, les émotivités de l'enfance persistent et restent présents dans la vie adulte et même dans la vie de la vieillesse.
C'est Roland Barthes qu'on entend au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie sur France Inter en 1975. Sarah Chiche, vous citez Barthes dans une interview en disant qu'il a dit quelque chose comme « l'enfance est le territoire de l'ennui », une phrase qui vous parle, puisque vous-même vous vous ennuyiez beaucoup pendant l'enfance, sauf lorsque vous lisiez, et votre enfance s'est passée en partie en Suisse, comme le début du roman « Aimé ». Vous êtes replongée dans vos souvenirs d'enfance pour l'écriture de ce livre ?
Je n'en fais absolument pas mystère. Ce qui arrive à la petite Margot et à sa mère renvoie tout à fait à un épisode de mon enfance en Suisse, quoique débarrassée de ses aspérités les plus cruelles. Mais ça s'arrête là.
Qu'on
tout
révèle
le reste
pas.
Ou quasi est fiction. Hein, je voulais vraiment sortir de l'autobiographie pour aller dans l'exploration romanesque. Mais il est vrai que la petite Margot, oui, je l'ai bien connue.
Et d'ailleurs, quand on vous fait remarquer à chaque livre les points communs qu'il pourrait y avoir entre votre existence ou vous et les personnages, vous avez à peu près la même réponse que celle que vous venez d'énoncer. Moi, j'ai évidemment pensé à Anna dans L'Inachevé pour sa liberté sexuelle ou son errance, selon le point de vue, ou à l'écrivaine qui fait le serment au fantôme de son père de devenir justement écrivain dans Saturne. Et concernant Saturne, parce qu'il y a quand même des motifs qui reviennent dans vos livres, Sarah Chiche. Saturne, ça vient du tableau de Goya où Saturne dévore ses enfants. Et c'est une image pour dire que dans les familles, les adultes les dévorent, une idée qu'on retrouve dans Aimé, puisque dans Aimé, les adultes sont pour la plupart très décevants.
Ils sont décevants. La mère de Margot est décevante dans son comportement avec cet amant qu'elle a rencontré et qui l'entraîne dans ce piège mortel en Suisse.
Un escroc est bien pire.
Un escroc est bien pire et on va le découvrir peu à peu. Mais les parents de son camarade Alexis, qui mènent une vie en apparence des plus équilibrés, sont eux aussi décevants. Il s'agissait d'explorer non pas uniquement le tragique, mais vous savez, ces petites médiocrités. Hein, qui nous abîme, qui nous altère, qui nous humilie insidieusement quand on se rend compte le père qu'on vénérait, c'est le cas pour Alexis, le père qu'on vénérait, qu'on trouvait digne, rigoureux, n'est pas exactement cet homme-là, qu'il cache certaines choses. Et quand on se rend compte bien plus tard que, au fond, une mère ne cesse jamais d'être une énigme.
Alors, évidemment, je sais que c'est de la fiction et vous l'avez répété, mais quand on regarde les personnages, par exemple le personnage d'Alexis, pour le personnage de Margot, ça semble un peu plus évident puisque elle est écrivain, pas tout de suite. Alexis, lui, veut désespérément être sérieux, il fait polytechnique, les mathématiques le rassurent. Bon, ça, c'est pas la première fois d'ailleurs que vous soulevez l'idée, puisque les mathématiques, c'est le seul endroit où il y a la perfection finalement. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il contrôle tout, il calcule tout, il analyse tout par les statistiques, les émotions le terrorisent, mais il lit énormément, et vous citez notamment quand même un livre très romantique dont le héros est hypersensible, c'est Tonio Kruger de Thomas Mann.
Oui. C'est un si beau livre. Quelle perfection ce roman. L'histoire de ce petit garçon qui, très tôt, est foudroyé par la mélancolie et déçu par la nature humaine et son cheminement. Oui, alors c'est amusant parce que quand j'ai écrit ce livre et que les premiers lecteurs l'ont lu, il y a un monsieur galeriste que j'estime beaucoup qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit « Je suis absolument ravie, ma chère Sarah, j'en déduis que ton existence a pris un tour heureux. » Or, Alexis n'existe pas ailleurs que sous ma plume. Je l'ai rêvé, je l'ai voulu tel, il me ressemble beaucoup par certains aspects, mais quand j'ai écrit ce roman, en fait, j'étais dans une période très, très âpre de ma vie, comme cela peut arriver, parfois dans une existence humaine, confrontée à la maladie très grave d'une proche. Et je me suis dit, il y a deux solutions. Soit tu te couches et tu pleures, tu te relèves pas, soit tu vas essayer de faire un pied de nez à l'existence et tu vas écrire un livre beaucoup plus lumineux que tes précédents romans. Un livre joyeux. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire. Mais, contrairement à Margot, je suis beaucoup plus éprise de liberté qu'elle, c'est-à-dire que je ne laisserai pas n'importe qui partager mes tiroirs pour y mettre ses chaussettes.
Elle ne laisse pas n'importe qui le faire.
Oui, ce n'est pas n'importe qui.
Il y a un autre personnage qui est la future femme d'Alexis.
Oui.
Adèle, qui paraît bien cruelle, mais on voit qu'elle a aussi des traumatismes dans l'enfance, et qui, malgré le fait qu'elle calcule absolument tout, s'émerveille devant des tableaux. Est-ce qu'on peut vivre ces émotions uniquement par procuration, uniquement par le support des œuvres d'art ?
Alors, dans La pianiste d'Alfred Jelinek, adapté ensuite au cinéma par Michael Haneke, film très important pour moi, vous le savez, le personnage incarné par Isabelle Huppert dit que jamais les sentiments ne contamineront son intelligence. Donc, il se trouve des êtres qui préfèrent Vous voyez, pour éviter le chaos des sentiments, le chaos de la chair, se réfugier dans la pure abstraction. Alors Alexis avec les mathématiques et Adèle devant la beauté d'une toile, plutôt que de vivre l'amour comme quelque chose de risqué.
Mais est-ce que c'est possible ? Je veux dire, on peut avoir le désir de ne pas souffrir et de ne...
Mais oui, c'est souvent ça.
Mais on n'y arrive pas.
On a peur de souffrir, mais si, c'est dur.
Mais vous arrivez à vous protéger des choses en vous mettant uniquement dans l'art ? On peut le décider intellectuellement, mais de là à y arriver ?
Ah, y a des gens qui sont comme ça, je vous assure, et ça leur crée une petite armure bien compacte, moyennant quoi ils arrivent à naviguer dans l'existence, de façon assez honorable et digne, mais ce sont des sarcophages, vous voyez, ils sont morts en eux-mêmes, il y a quelque chose qui est amputé.
Ce n'est pas votre cas.
Non.
Alors, vous êtes un chevalier, mais votre armure est souple.
C'est possible.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
L'amour, dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie. Souvent une ruine. L'amour.
Ça peut paraître attendu pour parler d'un roman qui s'appelle Aimer, mais c'est quand même beau, L'amour de Mouloudji. Sarah Chiche, vous publiez Aimer chez Julliard, un livre sur les secondes chances, évidemment sur l'amour. Margot, 9 ans, au début du livre, a une raison précise de vouloir mettre fin à ses jours, quelque chose d'ignoble qu'elle subit. Il y a quelque chose d'Ophélie un peu chez elle, il y a le motif de l'eau qui revient souvent. Et à la disparition de Margot quand Alexis est petit, son père lui dit que cette douleur qu'il a de sa disparition, puisqu'elle ne disparaît pas en mourant, évidemment, s'il n'y aurait pas de livre, elle change de pays, il lui dit que sa douleur va lui apprendre quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours tirer quelque chose de bénéfique d'une douleur ?
Non. Il y a cette idée reprise par Alexis plus tard, qui, en sortant de l'hôpital où il a laissé son vieux père, se dit « mais la peste soit de ce philosophe qui a dit que la douleur enseigne. Il serait faux de mettre trop de romantisme dans l'idée que c'est en souffrant que l'on deviendra plus admirable, plus remarquable. » Pas toujours, hein. Ça n'a que peu de rapport avec le mérite. En revanche, certaines grandes souffrances nous confrontent à l'existence dans sa nudité, sa vérité la plus radicale. Et quand on touche du doigt ces choses-là, c'est sans retour possible, je crois. Donc on en tire un savoir supplémentaire dont on se serait peut-être bien passé, hein, mais puisqu'il est là, autant en faire quelque chose.
Est-ce qu'on se remet un jour des douleurs de l'enfance ? Est-ce qu'on est déterminé ?
Je crois qu'il y a toujours un reste. En ce qui me concerne, je dirais qu'il y a des choses dont je l'écris dans Saturne d'ailleurs, il y a des choses dont je ne me remettrai jamais, dont je ne souhaite d'ailleurs pas me remettre, mais j'ai trouvé dans l'existence des compensations suffisantes pour me dire « Ah, c'est quand même bon de vivre, c'est quand même chouette ». Hein. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face à cela. Il y a tant de paramètres génétiques liés aussi au milieu dans lequel on est, le pays dans lequel on grandit, les guerres qui nous traversent, etc. etc. Donc, il serait bien présomptueux de dire qu'on se remet, on peut se remettre ou on ne s'en remettra jamais. Ça dépend.
Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous en remettre ? De ces choses que vous évoquez.
Parce que je veux garder mon père auprès de moi toujours.
Comme Margot dans le livre.
Oui.
J'aimerais connaître, Sarah Chiche, votre vision de l'amour et peut-être aurez-vous une réponse à cette question. Pourquoi est-ce que la folie ou la trop grande intensité, parfaitement malsaine, séduit tant ? Je pense à l'amante d'un père dans le roman qui à un moment lui dit « je veux boire vos larmes, ensuite vous ne pleurerez plus ». C'est-à-dire on accède à l'absolu, on a envie d'y aller parce que c'est l'illusion contre la solitude ontologique. C'est comme ChatGPT qui est disponible à chaque heure comme personne, c'est un truc de drogué.
Ça peut être une maladie dont on ne veut certainement pas guérir l'amour, hein, une addiction absolument incroyable. Et puis on peut être aussi non pas amoureux ou amoureuse d'une personne, mais amoureux de l'amour. Et là, ça se complique encore.
Mais pourquoi est-ce qu'on est attiré par le fait qu'il n'y ait pas de limite, alors que c'est vraiment l'inverse de l'équilibre et de l'amour véritable que vous souleviez justement en début d'émission ?
Ah, je crois que ça dépend des êtres, mais vous faisiez allusion à « je veux boire vos larmes, Henri, après vous ne pleurerez plus ». C'est Madeleine, l'amante d'Henri, le père d'Alexis, qui lui dit cela un jour. Et là, on est dans une configuration, bien sûr, d'une femme qui est prête à s'oublier, à s'abîmer totalement au nom de l'amour. C'est une proposition très radicale que la sienne.
Hein. Elle est séduisante.
Elle est très séduisante, mais c'est des choses qu'on peut trouver dans certaines grandes correspondances amoureuses. Vous voyez, quand on lit celle de Maria Cazares et de Camus, ou de Dominique Rollin et de Philippe Solers, il y a des choses d'une beauté et d'une radicalité inouïe.
Et vous pensez que ces mots sont sincères dans leur correspondance ou qu'ils sont aussi grisés parce qu'ils écrivent ?
Ça, c'est Albert Cohen. Quoi qu'on puisse penser aujourd'hui de la misogynie possible de certains de ses textes qui moquaient bien ces petites pantomimes auxquelles nous nous livrons dans l'amour. Au fond, on croit qu'on va en mourir et puis la plupart du temps, on ne meurt pas. C'est beaucoup plus gris. Et puis, on se remet en selle, le petit train repart et puis voilà, affaire suivante.
L'une des héroïnes de votre roman Aimée, Sarah Chiche, c'est Margot et c'est une fille de bande puisque jeune, elle va en boîte de nuit avec ses copines de collège et elles écoutent dans la rue Like a Prayer de Madonna qu'elle chante. Plus tard, elle a une autre bande d'amis. J'ai une archive de prévu pour ça, donc j'en parlerai tout à l'heure. Mais elle ne s'éloigne jamais de la tombe de son père Aimée. Il y a beaucoup de fantômes comme dans tous vos livres. Est-ce que vos rapports aux fantômes ont évolué ?
Absolument pas.
Comment est-ce qu'on fait une place à ces fantômes pour qu'ils nous hantent de façon plus agréable ? Puisque je crois que quand on ne leur fait pas de place, c'est là qu'ils nous hantent n'importe quand. Et quand on leur fait une place c'est délibérée, vrai. C'est le rôle des rituels, et ben on maîtrise un tout petit peu plus.
Vous avez tout à fait raison, et je crois que c'est une question d'acceptation qui vient peut-être avec les années. Cheminer avec ses fantômes, avec ses disparus, mais de façon plus paisible, de façon plus joyeuse, ne plus être ravagé par cela. Ils sont en nous, avec nous, et plus curieux peut-être, nous sommes en eux. Et il y a certains moments peut-être où, c'est ainsi que je le vis en fait, le passé, le présent et le futur se superposent. Ce sont des phénomènes très très étranges, mais quand on les accepte de façon... paisible, tout en sachant bien que certains êtres ne reviendront jamais. Hein. Le retour de l'être aimé, ça c'est que pour les marabouts. J'aurais tant voulu que ça marche, mais c'est plus compliqué que ça.
Il y a peut-être de bons marabouts.
Ben voilà. Mais si vous avez une adresse, dites-le-moi.
Non. Mais alors justement, il y a évidemment le deuil, les fantômes, mais il y a beaucoup de pulsions de vie, et notamment par la sexualité. Les deux personnages principaux, Alexis et Margot, ont des mœurs très libres. C'est-à-dire, quel que soit le sexe des gens avec lesquels ils couchent, bah ça c'est vraiment... ce n'est pas une question en fait, ça leur est parfaitement indifférent. Et il y a une émancipation par la sexualité.
Absolument, il était important pour moi de montrer que pour certains êtres, au fond, on ne tombe pas amoureux d'un homme ou d'une femme ou d'une personne non-binaire, mais on tombe amoureux d'une personne. Hein. Et c'est la rencontre avec cet univers-là et le fait qu'à un moment donné, une personne va devenir pour vous un royaume qui est déterminant. Margot, dans l'adolescence, a des passions tout à fait chastes et platoniques, mais pour une de ses professeurs ou pour une camarade. Alexis, lui, va s'apercevoir à un moment donné, pour lui c'est beaucoup plus compliqué, horrifié qu'au fond, peu importe le genre, homme ou femme, au fond, la fuite dans l'oubli d'une chambre, dans des corps, est ce qui va l'aider à composer avec son angoisse de la performance et de l'hyperproductivité dans ce New York délirant des années 2010 qui préfigure déjà l'arrivée de Donald Trump. Mais, en effet, la sexualité libre, consentie, entre adultes, comme un vecteur de liberté et d'émancipation et de beauté aussi, c'est quelque chose que je voulais explorer dans ce roman.
Vous venez de citer Trump et justement on suit, c'est une saga sur plusieurs générations qu'on suit dans Aimer Sarah Chiche. Il y a le mur de Berlin, le Concorde, les Jeux Olympiques, TikTok, Trump, Gaza, Tinder, Uber, les pandémies et puis...
Bonsoir, merci d'être avec nous en direct du magnifique Palais des Sports de Grenoble. Je vous présente Ambition de Grenoble.
Non mais c'est réjouissant quand même. Bon, c'est l'émission Ambition de Bernard Tapie en 86 sur TF1, une émission qui ne pourrait évidemment plus exister aujourd'hui, mais qui tout de même a un petit effet stimulant.
Il faut se rappeler que dans cette France des années 80, Tapie était idolâtré par un certain nombre d'individus qui voyaient là voilà, la personnification d'une réussite et d'un sans-gêne absolument éclatant, vénéré par certains mais détesté par d'autres.
C'est l'inverse de notre époque où l'on prône sans cesse la sobriété, voire l'austérité.
Absolument. Absolument, c'était une espèce de personnage flamboyant et en toc en même temps, qui a fait irruption dans un contexte d'ultralibéralisme et il a surfé avec un drôle de génie sur les codes de cette époque-là, oui.
One perfect rose, a single flower he sent me since we met. All tenderly his messenger he chose, deep-hearted, pure, with scented dew still wet, one perfect rose. I knew the language of the floweret. My fragile leaves, it said, his heart enclose. Love long has taken for his amulet, one perfect rose. Why is it no one ever sent me yet? One perfect limousine, do you suppose? Ah, no, it's always just my luck to get one perfect rose.
Dorothy Parker lit un de ses poèmes en 1964 et on la retrouve sous forme de groupe WhatsApp dans votre livre Sarah Chiche, Aimé, puisque l'un des personnages principaux, qui est Margot, rencontre un groupe d'amis à la danse et fait un groupe qui s'appelle les Dorothy. Est-ce que oui. Vous avez une recommandation de lecture ?
La vie à deux, de Dorothy Parker. Admirable recueil de nouvelles, d'une causticité et d'un mordant remarquable.
Margot dit à un moment à Alexis, j'existe si peu quand je n'écris pas. Elle trouve immédiatement sa phrase prétentieuse, mais demande à Alexis, comment t'y prends-tu pour exister ? C'est la question que je vous pose.
J'écris.
Ça vous suffit ?
Et j'aime.
Ah oui, ça c'est quand même fort. C'était le meilleur commentaire qui existe sur l'amour. Margot souffre d'hypermnésie qu'elle qualifie de maladie. Est-ce que vous êtes hypermnésique, Sarah Chiche ?
Ah oui, oui, oui. Mais là, avec les années, je me rends compte qu'il y a certaines choses... Peut-être un petit trouble de la mémoire immédiate. Par exemple, je pose un verre d'eau et je ne sais plus où je l'ai mis l'instant d'après. Mais en revanche, pour les événements lointains, très anciens, oui, je n'oublie rien. Je revois... Il n'y a guère que les voix qu'on oublie. Hein. Mais sinon, je revois les pièces, je revois les regards. Oui, je n'oublie rien.
Donc une mémoire visuelle, plutôt.
Très.
Vous dites à un moment au sujet de Margot, qui est donc écrivain, je le rappelle, qu'elle se rend sur France Culture en utilisant sa voix numéro 32 et qu'elle fait semblant de tout savoir alors qu'elle ne sait même pas faire cuire un rôti. Alors évidemment, j'ai deux questions là que vous attendez. C'est savez-vous faire cuire un rôti et quelle voix utilisez-vous ce soir ?
Alors écoutez, par exemple, vous voyez.
ça, c'est la numéro combien ?
Oh, la 43,5 peut-être.
Oui.
Ça renvoie à un épisode tout à fait véridique. Il est vrai que j'avais fait un pari avec ma fille. Je lui avais dit, on ne m'invitera jamais. Et elle m'avait dit, en Paris, et si on t'invite, tu m'emmènes faire Big Thunder Mountain. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est des montagnes russes absolument terrifiantes. Et donc, ma fille a gagné son pari, à la suite de quoi je me suis retrouvée à faire cette attraction diabolique. Voilà. Tant mieux, parce que je ne le ferai pas tous les jours.
Et le rôti, alors ?
Toujours pas.
Écoutez, je ne vous en tiens pas rigueur. Est-ce que la peur du bonheur existe réellement ? Et si oui, peut-elle être causée par autre chose que du masochisme ou l'habitude d'être malheureux ?
Oh, mais le bonheur...
Est-ce que vous le soulevez, ça, souvent, dans votre livre ? Avoir peur de cela ?
Mais dans le cas de Margot et surtout d'Alexis, il y a cette... Surtout d'Alexis, il y a cette peur terrible de pouvoir s'autoriser à être heureux à la cinquantaine, alors qu'on a déjà divorcé, donc qu'on a blessé son ex-femme, qu'on a blessé ses enfants, et qu'on a un parent malade, et qu'on est devenu l'aidant de son parent. On peut avoir très peur à ce moment-là de s'autoriser la joie. On peut trouver ça tout à fait indigne et tout à fait obscène. Et même quand on n'est pas confronté à ce genre de tragédie-là, oui, bien sûr, parfois on peut estimer que je crois que le bonheur est quelque chose de trop grand pour nous. Moi, ça me fait peur encore parfois.
C'est vrai ?
Ah oui, ça me fait peur. Donc à chaque fois, quand ça advient... C'est un miracle, c'est une grâce, mais c'est sidérant.
Vous écrivez au sujet de Margot. À 50 ans, Margot Gennaro avait atteint ce moment de l'existence où l'on cesse de blâmer sa famille pour ses chagrins et les critiques littéraires pour sa propre médiocrité et où l'on se rend compte que la suite de notre parcours nous appartient entièrement. Alors, vous êtes plus jeune qu'elle, mais prenez-vous aussi ce chemin.
Ah oui, ça m'a beaucoup amusée d'écrire cette phrase. Ah oui, j'aime bien... jouer à ce genre de petit jeu-là. Oui, il me semble que passé un certain âge, eh bien, on est heureusement et malheureusement responsable de ses malheurs. Bien sûr, pas les malheurs de l'enfance, hein, pas les malheurs dont on a été victime, mais les malheurs ordinaires, oui, on est responsable de cela. Quant à sa médiocrité, ben oui, hélas, voilà, on en est responsable aussi.
Quelle mauvaise nouvelle. Est-ce que ça vous a amusé aussi d'écrire la phrase suivante ? Il y a une chose plus redoutable qu'une femme au bord de la folie, c'est une femme qui transforme sa folie en littérature.
Oui, je crois que... Toutes les personnes qui vivent avec une femme qui fait vœu d'écriture en font l'expérience, parfois. Hein. C'est une ascèse, c'est un sacerdoce, ça suppose beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, beaucoup d'abnégation aussi. Mais c'était aussi en même temps une façon de moquer ce romantisme-là.
Est-ce que vous pensez que les écrivains sont des monstres d'égoïsme, comme quelqu'un l'affirme dans le livre ?
Ah oui, je crois. Oui. Il y a toujours un moment où on va préférer le silence, la solitude, l'isolement radical, et on va préférer cheminer avec ces fantômes de phrases, ces visions, ces personnages chéris. Hein, on va les aimer tendrement, peut-être parfois bien plus tendrement que les proches, hein, qui pourtant, eux, sont de chair et de sang. Et ça, ce sont des moments absolument terribles. Et pour autant, si on n'écrivait pas, peut-être que ce serait pire encore. Alors, il faut écrire envers et contre tout. «
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
C'est votre choix musical, Sarah Chiche, Le tourbillon de la vie de Jeanne Moreau.
Oui. Une chanson magnifique qui parle d'un amour de toute une vie, je crois aussi. Enfin, c'est ainsi que je l'entends, de trouvailles, de pertes et de retrouvailles et de ce grand tourbillon de l'existence qui fait que parfois on est séparé de la personne qu'on aime, mais que peut-être on va finir par retomber sur elle. Plus tard, il y a des moments comme ça assez mystérieux. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Margot et Alexis se rencontrent, se retrouvent à 50 ans dans ce lieu prosaïque s'il en est, le supermarché entre les haricots en promotion et les pizzas 4 fromages, hein? Et pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à 50 ans? Pourquoi ne se sont-ils pas retrouvés à la trentaine ni à la quarantaine? Que se serait-il passé dans leur vie respective s'ils s'étaient retrouvés plus tôt? Auraient-ils pu s'aimer comme ils s'aiment à la cinquantaine? Voilà, ce sont toutes ces questions vertigineuses et cocasses aussi parfois que j'ai voulu explorer.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't.
Votre second choix, c'est Suzanne Vega, My Name is Luca.
Oui, c'est l'histoire d'un petit garçon, d'un enfant battu, qui chante à ses voisins. Si jamais vous me croisez un jour dans l'escalier ou dans le couloir, surtout ne me demandez pas quels sont ces bruits, mêlez-vous de vos affaires. Et Suzanne Vega a confié des années plus tard qu'en fait c'était quelque chose qui lui était arrivé elle-même. Bon, j'en ai parlé dans des précédents romans, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. Ben oui, quand il arrive que des enfants rencontrent cette forme de violence-là, de mal radical, c'est ce qui arrive aussi à Margot en Suisse. Mais une fois encore, il n'était pas question pour ce roman de se vautrer dans la complaisance doloriste. Je trouve que quand on raconte ces choses-là, la sobriété est de mise. C'est cela qui permet le plus de faire entendre quelque chose au lecteur. Mais vous voyez, c'était une époque, quand cela arrive à Margot, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, heureusement, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place qui permettent tout de même d'avoir un regard plus alerté dans certaines circonstances sur ces drames, mais pas toujours malheureusement. Et je pense à tous ces enfants et ces adolescents, peut-être que certains d'entre eux nous écouteront, je ne sais pas. Voilà, il faut parler à un moment donné, il faut le dire hein, quand ça se passe. Le plus dur en fait, c'est d'oser rompre le silence, c'est d'oser le dire. Mais on peut le dire à un professeur, on peut le dire à un ami ou à une amie, et ils sont là pour aider.
Ça nous angoisse, je crois, le silence, parce que c'est un moment où l'accord minimal entre nous, c'est-à-dire le dialogue, quelques mots échangés, va disparaître. Il faut savoir aussi que avant, en latin, les morts, on les appelait les silentes. Et donc je pense qu'il y a toujours quelque chose de l'ombre de la mort qui colle au silence et qui vient tout de suite nous questionner. Où est la vie? Est-ce que je suis vivante? Est-ce que vous êtes vivant? Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre ensemble? Qu'est-ce que seraient nos dialogues, nos échanges, si on respectait pas des temps de silence? Parce que dans ce temps de silence, c'est notre corps aussi qui va s'exprimer. C'est notre présence, c'est notre attente, c'est la manière dont je vais ralentir pour aller à la rencontre de quelqu'un, ou au contraire, la manière dont je vais accélérer. Donc le silence, c'est ce qui va témoigner de mon existence et de mon corps dans la rencontre.
Sarah Chiche, comme découverte culturelle, vous avez choisi de parler aux auditeurs de Nos silences de Laurence Joseph, paru aux éditions Autrement. Et je vous ai un peu suivi sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait quelques accointances avec cette femme qu'on vient d'entendre en mars dernier au micro d'Ali Badou sur la chaîne.
Oui, cette femme que l'on vient d'entendre est une de mes plus proches amies et la première lectrice de ce roman, Aimée. Et elle a écrit cet essai admirable, Nos silences, apprendre à les écouter. C'est un texte que je trouve tout à fait fondamental sur les silences qu'on subit. Le silence des victimes, le silence dans le deuil, le silence après certains abus, mais aussi les silences qu'on choisit, les beaux silences, vous voyez, les beaux silences dans l'amour, les beaux silences après un rapport charnel, le silence qui succède à la musique, le silence de la prière. Et c'est extrêmement fin et extrêmement subtil, et en plus, ça reste très accessible.
Je voulais savoir si vous aviez des livres à recommander aux auditeurs, parce que j'ai lu que l'été 2024, vous en avez aimé deux, Le Grand Maulne d'Alain Fournier et Le Pays où l'on n'arrive jamais d'André Dautel, et vous les avez aimés parce qu'il s'agissait de fugues.
Oui.
Quel est votre rapport à la fugue?
Je fugue sans arrêt tout en étant très, très extrêmement rigoureuse. Je fugue dans la lecture, dans le silence de la lecture, je fugue dans l'écriture, je fugue quand je trouve le moment juste pour m'occuper de ma fille et passer un temps avec elle qui n'appartiendra qu'à nous deux. C'est important quand on a une vie extrêmement rigoureuse et contrainte de se ménager des moments de fugue. Et alors, vous me demandiez un livre, alors je dirais peut-être un livre récent de la rentrée, celui de mon amie Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Je voulais vivre, qui est un roman de Capet-d'Épée absolument fantastique sur Milady.
Donc il y a des chevaliers dedans ?
On peut dire que Milady serait peut-être un chevalier aussi à sa façon.
Oui, à sa façon, on pourrait le dire. Est-ce que vous dansez toujours ?
Ah oui, toujours, oui. Oui, toujours.
Danse classique ou ça a évolué ?
Alors, la danse classique, oui, j'en fais toujours avec cette petite nuance que j'ai un petit problème à l'oreille gauche qui fait que les pirouettes ne peuvent plus être aussi virtuoses.
Car c'est le lieu de l'équilibre, l'oreille.
Tout à fait, absolument. Mais sinon, dès que l'occasion m'en est donnée, ben là par exemple j'étais avec plein de camarades auteurs dans un très beau festival récemment en Suisse, et je peux vous dire que le soir nous nous en sommes tous donnés à cœur joie dans la danse.
Il paraît que vous dansez sur de la K-pop ou même sur DJ Snake, Sarah Chiche.
Oui, c'est vrai, oui, il m'arrive d'emmener des êtres chers à mon cœur dans des concerts, oui.
Merci beaucoup Sarah Chiche.
Merci à vous.
Votre roman Aimé est paru aux éditions Julliard et vous serez après-demain au musée d'Orsay pour le Jour des écrivains. Toutes les informations sont sur le site du musée. L'événement est gratuit sur réservation. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Arnaud Caillet. Thank you.